Manivelle Swing est le nom de scène de Sylvain Lyoté-Stas. Originaire d'Arras, il redonne souffle et énergie aux chansons des rues avec son orgue de barbarie en bandoulière. Il reprend entre autres des standards interprétés par Juliette Gréco, Yves Montand, Jeanne Moreau, Boris Vian, Bourvil ou encore Renaud. Mais il s'intéresse également à d'autres styles tels que le jazz, le reggae ou la pop. Il était invité à se produire sur scène pour les 1 an du Raperché, le café culturel citoyen et solidaire implanté place du Théâtre à Arras. Entretien avec cet artiste qui fait swinguer sa manivelle pour évoquer sa passion qu'est l'orgue de barbarie, ses collaborations et bien évidemment son rapport avec le Raperché.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot.
Sylvain, il faudrait que tu m'en dises plus sur Manivelle Swing. Donc c'est chant et orgue de barbarie. D'abord, explique un petit peu le concept Manivelle Swing exactement.
Le concept, il est pas nouveau. Hein. C'est de la chanson des rues au départ, reprise, adaptée avec un orgue de barbarie. Donc ça, c'est quelque chose que moi-même j'ai croisé quand j'étais petit, dans la rue à Paris, quand j'étais gamin. Et je m'étais dit, comme beaucoup de gens, que je ferais ça à la retraite. Pour mon plaisir personnel, et puis c'est d'autres amis qui à un moment dans ma vie m'ont dit: mais Sylvain, qu'est-ce que tu t'encroutes là tout seul dans ton atelier? Je travaillais le cuir, pourquoi tu repousses pas la chanson? C'est ton truc, la chanson. Et j'ai cherché quelque chose qui soit pratique, pour que j'ai pas à réfléchir par exemple à tous les accords qu'il y a sur une guitare. J'ai lâché la guitare depuis longtemps en fait, et l'idée c'était de pouvoir exprimer des textes. Donc des textes du passé, mais en fait ils sont très actuels pour moi. Et puis petit à petit, pour faire quelque chose qui soit autre chose que l'image d'Épinal du tourneur de manivelle, c'est reprendre des chansons peut-être plus actuelles ou des genres qui ne sont pas habituellement à l'orgue de barbarie, puisque moi j'écoute un peu toutes les musiques, du moment que ça parle de l'être humain, de la société, de l'amour, de l'amitié, et des petits combats individuels ou collectifs qu'on essaye de mener ici et là, quoi.
Mais Manivelle Swing, c'est un collectif? T'es tout seul ou il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de ce nom?
Dans l'univers de la musique et dans l'univers des intermittents du spectacle, très honnêtement, j'ai vu pas mal de copains perdre leur statut tout au long des années. Et si moi je me mettais dans la musique officiellement, professionnellement, j'avais conscience qu'il fallait préserver quand même quelque chose d'individuel pour ne pas être dépendant des autres. D'où l'intérêt aussi de cet instrument où on peut se balader seul. En plus, il est portatif, le mien. Donc je peux aller et venir seul, et puis entre autres par exemple dans les maisons de retraite, je fais beaucoup évidemment ce genre de lieu. Au niveau des tarifs, ils ont très, très peu de budget, donc payer un musicien c'est possible, deux à trois c'est rare, ça arrive mais c'est rare. Et au-delà de ça, moi mon goût il est de jouer avec les autres. Alors je me suis associé forcément à des musiciens, des musiciennes que j'ai croisés avec des envies communes, ou en tout cas une proposition de ma part de faire vraiment des arrangements musicaux qui soient à la hauteur des textes. Donc mêler le sens du texte avec le sens que la musique, la mélodie peut vraiment apporter. Donc c'est pas une grosse orchestration, mais c'est un vrai travail. Donc derrière moi, il y a une harpiste, Morgane Lecuff, qui a ses propres formations, qui est une artiste à part entière, mais qui joue avec moi depuis plus de 8 ans, et j'en suis vraiment ravi. Elle chante aussi. Il y a un violoniste, Cyril Fouquet. Il y a de la contrebasse, mais ça tourne un peu. C'est difficile de garder des contrebassistes parce qu'ils sont très demandés. Et comme moi, je n'ai pas la possibilité de vendre très souvent toute la formation, tout le groupe, c'est un peu compliqué. Donc de la contrebasse, il y a eu du beatbox, il y a eu du chant signe, du chant en langue des signes pour, on va dire, traduire. Mais ça n'est pas que de la traduction, c'est vraiment réinterpréter aussi les chansons dans cette langue particulière qu'est la langue des signes pour partager aussi l'histoire de ces chansons, cette culture qui est notre culture dite française, mais pas que, puisque je travaille aussi sur d'autres styles, le jazz, le reggae, tout ça, mais c'est histoire de dire qu'on n'est pas que entre entendants et que cette poésie-là, les thématiques abordées peuvent être accessibles à tous. Et moi, j'ai rencontré la langue des signes avec quelqu'un qui s'appelle Letty Itual, qui est une chansigneuse très active pour rendre accessible justement la culture et créer un pont entre les sourds et les entendants. Je travaille aussi avec un vidéaste, Paul Légoni. Donc, on a fait des vidéoprojections aussi. Donc voilà, c'est un tout, mais qui se dissèque en plein de parties. Et c'est selon un peu les envies et les budgets de chacun, mais évidemment Manivelle Swing à la base, c'est moi.
Alors, ton instrument, l'orgue de Barbarie, c'est pas non plus un instrument qui se trouve au coin de chaque rue. Déjà, est-ce que c'est difficile de se procurer ce genre d'instrument? Est-ce qu'il faut le fabriquer soi-même? Comment ça marche? Les rouleaux, etc. Expliquez un petit peu, parce que c'est un instrument populaire et qui a une histoire, mais en même temps qui se perd peut-être un petit peu à l'heure actuelle.
Ouais, c'est vrai. Alors, pour ce que moi j'en sais, je ne suis pas un expert non plus dans cette partie, hein. Évidemment, je me suis renseigné, j'ai rencontré d'autres tourneurs de manivelle. Il y a entre autres une association à Paris qui est entre autres tenue par Riton la Manivelle, que je salue parce que je ne l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie, mais c'est grâce à lui que j'ai pu obtenir les premières informations sur l'histoire de l'orgue de Barbarie. Et je crois que l'association c'est Ritonnel et Manivelle. En fait, cet instrument a à peu près 4 siècles. Il a surtout permis à des gens venant de l'étranger de gagner un peu leur sous en tournant une manivelle sans connaître la langue forcément, ni forcément la musique. Après, même la musique classique, les compositeurs de musique classique rêvaient que le peuple jouisse de leurs compositions et n'étaient pas que destinés aux rois et aux puissants. Et donc, des orgues de Barbarie, de différentes dimensions, ont pu reprendre ces airs-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, nos parents, nos grands-parents, parfois dans les campagnes, ont connu la musique classique à travers un instrument populaire comme celui-là. On va dire que c'était la radio de son époque, il n'y avait pas tous les moyens de communication actuels. Et c'est vrai que moi j'en ai croisé étant petit à Paris, ça m'a marqué parce que c'est une belle image, mais c'était des instruments imposants sur chariot, charrette, et moi je voulais pas de ça, je voulais quelque chose de dynamique qui soit un peu comme un accordéon sur scène. Il y a eu un renouveau de l'accordéon il y a 15-20 ans, moi je voulais quelque part participer à un renouveau de l'orgue barbare. Et avec un orgue en bandoulière, donc c'est un modèle un peu particulier que j'ai trouvé d'abord sur internet, après je me suis renseigné auprès du fabricant qui est en Bourgogne, mais il y a je dirais 4-5 fabricants d'orgues de Barbarie vraiment au top, professionnels on va dire, et puis il y a effectivement des amateurs, des passionnés qui vont construire eux-mêmes. J'ai failli le faire, mais je me suis rendu compte du temps que ça allait mettre et de peut-être un problème de qualité à la fin qui ne m'aurait pas permis d'être à la hauteur de mes ambitions musicales tout de suite. Donc j'ai préféré prendre un modèle qui me correspondait, qui est un modèle un petit peu bâtard, je dirais, entre ce qu'on appelle le chromatique et le diatonique. C'est-à-dire que dans les basses, je n'ai pas tout, mais dans les médiums aigus, j'ai toute la gamme, les notes blanches, les notes noires, on va dire. Ce qui me permet d'approcher un peu le jazz, d'approcher un peu d'autres styles de musique, justement, d'Amérique latine ou... quelques variations, mais je ne peux pas tout faire et après il faut tout adapter sur ordinateur et créer soi-même ses arrangements si on veut le faire.
Et bien justement pour les reconstituer sur des rouleaux, hein, comment on fait? Est-ce qu'il y a une société qui s'occupe vraiment de ça? Est-ce que tu le fais toi-même?
J'ai été conseillé par un voire deux fabricants de rouleaux, puisque moi effectivement ce ne sont pas des cartons pliés mais des rouleaux pour que ce soit aussi léger et portatif. Un à Nancy, l'autre sur Toulouse. Il y a des règles traditionnelles qui sont celles d'avoir des arrangements qui comportent aussi la ligne du chant. Mais quand on veut interpréter comme moi et se donner certaines libertés, c'est compliqué. Donc il faut réécrire les arrangements. Et puis après, il y a nos goûts qui interviennent. Moi, j'ai des goûts quand même assez précis. Et j'ai pas envie de chanter sur n'importe quel arrangement. Donc j'ai appris qu'on pouvait utiliser des fichiers MIDI, karaoké. Donc soit je trouve un arrangement préexistant pour du karaoké, on va dire, ou simplement des bandes-sons qui accompagnent des chanteurs, mais en format MIDI. Je les récupère et là je retravaille tout sur mon ordinateur avec un éditeur de son MIDI et c'est moi qui vais épurer. Alors ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, des années suivant la difficulté du morceau, ma capacité à entendre ce qu'il faut enlever pour que ce soit propre, audible, derrière le chant, avec le chant. Et donc là je m'attache maintenant à retravailler sur des morceaux beaucoup plus contemporains, soit des reprises de chansons de potes à moi qui sont plus ou moins connues dans le mouvement de la chanson française. Il y a Ali, il y a Aske Oug. J'ai adapté d'autres choses, d'autres pays aussi. Là je travaille sur une chanson un peu plus justement espagnole. J'aimerais aussi faire un medley de chansons, en tout cas de refrains d'origine arabe, parce que je trouve que il y a un vrai problème actuel dans on pointe du doigt toute une société, toute une culture en favorisant des tas d'autres cultures, mais celle-là on n'entend pas assez, je trouve, ces sonorités-là. Maintenant, pour moi, c'est un challenge, je ne sais pas si je vais y arriver. Je fais beaucoup de jazz, je vais vers la pop et un peu de reggae, un peu de tout en fait, mais en fonction de textes qui me parlent et de musiques qui ont du sens. Et du coup, je vais aussi vers la pop anglo-saxonne, ouais, parce qu'il y a des jolies choses à adapter aussi dans ce sens-là. Mais c'est beaucoup de boulot et ça demande beaucoup de temps. Donc c'est le travail que je fais dans l'ombre, comme tout intermittent. Il y a une part qui est visible et puis il y a toute la partie invisible que l'on défend bec et ongle par rapport à tous les a priori qu'il y a sur la profession.
Avant de retrouver Sylvain pour la suite de cette interview, je vous propose d'écouter l'un des titres qu'il a interprété lors des Un an du rat perché. Ça s'appelle « Mon pote le gitan », écrit par Jacques Verrière sur une musique de Marc Herral, en hommage à Django Reinhardt, décédé en 1953 et qui a été popularisé vocalement par Barbara, Yves Montand et Mouloudji, entre autres.
Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout lourds. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas marrant, et dans notre bistrot, personne le comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Dès qu'il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, et les joueurs de belote s'arrêtent et plus rien. On a mal en dedans. Mon pote le gitan, c'est pas marrant. Hey, 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 hey. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi, je le sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand musicole voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant, le gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte. Et dans ma petite tête, ouais, j'ai du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée. Quand je pense à lui, m'arrive de chanter. Toi, sacré gitan, qui sentait le cafard, au fond, ta musique était pleine d'espoir.
Est-ce qu'on peut dire que l'orgue de Barbary est l'ancêtre du phonographe, hein, ou l'inverse ?
Alors pour moi, l'orgue de Barbary serait plutôt l'ancêtre de l'ordinateur, parce qu'il s'agit de cartons perforés, de cartes perforées. Donc il y a vraiment cet échange du coup entre maintenant l'héritier, l'ordinateur, et son bisaïeul, trisaïeul, l'orgue de Barbary, puisque c'est la programmation, en fait, c'est le 1 ou le 0, c'est le système binaire. Il y a un trou où passe de l'air, ou alors il y a le papier et ça empêche l'air de passer, donc la note et la musique de s'entendre. Ce serait plus ça pour moi, le rapport. Mais par contre, c'est pour moi plus la radio de son époque. Ça permettait au peuple d'entendre des airs de son époque, venus d'autres régions, voire d'autres pays, d'apprendre des chansons aussi qui faisaient l'actualité. et après de les détourner et d'en faire des pastiches comme aujourd'hui on pourrait regarder encore, enfin maintenant ça n'existe plus, les guignols ou des trucs comme ça. C'est une façon aussi de dire, de permettre au peuple de s'approprier une musique pour en y mettre les paroles qu'il avait envie d'y mettre. Et c'est aussi ça ce qui est le plus important pour moi autour de l'orgue de Barbarie, c'est un lien vraiment avec le citoyen et puis toutes les générations. On réunit tout le monde avec cet instrument-là. Quoi.
Tu joues donc aujourd'hui pour les un an du Rapperché. Comment tu as connu justement le Rapperché ?
Alors, en fait, j'en ai entendu parler avant sa création. C'est vrai que je fréquente la ville d'Arras pour raisons familiales essentiellement. Ma maman, qui était une Parisienne aussi, de souche, on va dire, a dû déménager parce que petit problème de santé. Ma sœur, qui habite dans les environs avec sa fille aînée, on proposait de s'occuper d'elle, de l'accueillir. Donc moi je suis venu à Arras plus souvent pour voir ma maman, ma sœur et mes nièces. Et au final, j'ai rencontré évidemment les loulous qui traînent à Arras, puisque c'est un peu mon milieu aussi, les bistrots, les cafés associatifs. Alors il y avait le Cat Size, j'ai rencontré Marina. Ensuite je suis allé au Couleur Café. Et puis là j'ai rencontré un peu l'équipe qui allait monter... le Rapperché, entre autres Amandine, et j'entendais parler de ce projet que je trouvais fantastique parce qu'il était totalement désintéressé et totalement fou de partir de rien, de dire on va rassembler toutes les énergies, ramenez-nous tout ce que vous avez qui ne vous sert pas, on n'a pas encore de lieu mais on va faire un truc dément. Et j'ai trouvé leur initiative belle, et ce qui est d'autant plus beau c'est qu'ils ont réussi très rapidement, pour moi de l'extérieur rapidement, en quelques mois, à avoir un lieu et à mettre en œuvre tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Et au-delà de ça, c'est la réalisation au quotidien qui, même moi qui suis de loin, j'arrive à suivre un peu les infos. Je trouve que l'initiative est très belle, tout comme une des assos qui est ici, la Brique et tout ça. Je trouve que Arras se développe en termes de fraternité, de citoyenneté, de vivre ensemble, d'information et de culture mélangée. Et j'avoue que j'aime bien venir boire un petit café ici en pote. Du coup, ça fait un an. Et quoi dire d'autre que vive le Rapperché et que ça dure très longtemps. On vous aime et bonne continuation.
C'était un entretien avec Sylvain Lyoté-Stas, alias Manivelle Swing, qui était invité avec son orgue de Barbarie pour les 1 an du Café culturel citoyen et solidaire d'Arras, le Rapperché. Avant de clore ce sujet, on écoute un autre titre de cet artiste, Rue de Paname, originellement interprété par les Ogres de Barbac.
Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y'avait là deux, trois femmes qui faisaient le tapin. Moi, j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards, aime bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs de tours Eiffel en plastique. Les saltimbanques les font rire, mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois à Paris, c'est la joie et la folie. Mais croyez-moi, bientôt, les flics auront du boulot. Car tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour toutes nos chansons, ouais, vous désarmeront. Il n'y aura plus que la folie, la joie et l'anarchie. La joie et l'anarchie, la joie dans Paris.